Good evening. This is Orson Welles speaking.
La naissance de la station de radio la plus puissante du monde.
Medellin, c'est la liberté.
La liberté, c'est aussi carbone.
Merci d'écouter RFI, il est 14h en temps universel, il est 16h à Paris.
Deuxième partie de notre entretien avec Fañch Langoé, ou plutôt Radio Fañch, qui nous emmène dans sa radio idéale, celle de la création, du flux, celle qui sait raconter des histoires et qui se fait avec des voix marquantes. Un entretien qui fait la part belle à un réseau de passionnés, de Brest à Paris, en passant par les radios locales et autres web radios. Et pour lancer la discussion, j'ai demandé à Fañch son avis sur la persistance du documentaire sur les ondes publiques. Belle écoute et place à Radio Fañch.
Alors l'histoire du documentaire, Marion Thibat, grande documentariste France Culture, est venue à longueur d'onde, on va dire en 2011 ou 2012. Elle nous a donné le temps de documentaire de la chaîne à l'époque hebdomadaire. C'est 20 heures et quelques. Quand elle parlait à ce moment-là, il n'y en avait plus que 4h30 sur la chaîne. Il y a moins de documentaires, il n'y a pas de volonté. On en fait une question de moyens. L'ADN de la radio, c'est la voix. C'est le reportage, c'est le documentaire. Aujourd'hui, des moyens énormes sont mis dans la radio pour le numérique et tout. Et comme par hasard, là on coupe les crédits, c'est pour la création radiophonique. C'est absolument invraisemblable. D'ailleurs, il n'y a pas un politique, ni ceux de l'Assemblée d'hier, ni ceux du Congrès hier à Versailles. Si j'avais été à Paris hier, j'aurais demandé une permission d'interviewer les 577 et leur dire « Vous écoutez quoi à la radio ?»« Ah oui, Patrick Cohen. Ah oui, Soto et tout, France Bleu, machin. » »« Ah oui, vous êtes bien en train de me parler de l'information, là. Mais est-ce que vous écoutez la radio ?»« Non, jamais. » Donc, ce sont les députés qui n'écoutent jamais la radio qui vont nous donner les crédits pour faire... Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Marion Thibat relève... qu'il n'y a moins de documentaires, et la première qui a cassé la baraque là-dedans, c'est Laura Adler. Laura Adler, vous avez été directrice, et en 99, vous avez écrit dans une interview au Monde que vous vouliez de la radio de direct. Documentaire en direct, c'est pas tout à fait facile à faire. Donc, petit à petit, il y a une casse quand même merveilleuse, qui était autrefois sur les deux, 17h et tout. On a décrété à la rentrée dernière que ça allait s'appeler la série documentaire, et non pas l'acronyme qui ne fait rire personne. On va faire une série par semaine avec un seul producteur. Mais ça s'appelle, si ça ne s'appelle pas du dirigisme, c'est n'importe quoi. Alors on me répond, oui, mais les nuits magnétiques, eh ben j'y vais. Nuits magnétiques, effectivement, quand Claude Dupont, en 78, va à New York faire une série, ben on va se dire, il prend l'avion, il reste là-bas, il va faire un documentaire d'une heure. Et le souci d'Alain Weinstein pour les nuits magnétiques, c'est une histoire longue, ça n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui, sur les docs, a montré que des producteurs pouvaient faire une heure, d'autres étaient à l'aise pour faire une série de deux, une série de trois, voire une série de quatre. Alors on pourrait dire à Perrine Kervran, mais c'est pas Perrine Kervran qui a décidé, à Sandrine Trainer, ah oui, donc on a la série documentaire, elle fait 4 heures, et pourquoi pas 5, pourquoi pas le vendredi? Ah ben oui, mais le vendredi, donc c'est du pipeau, large, réglé. Et ce que j'ai dénoncé cette année, c'est que si un producteur n'est pas forcément à l'aise avec un sujet, il a envie du sujet. Il se dit, bon, moi, je pars une heure. Ouais, mais 4 heures. Donc ça, c'est invraisemblable pour la radio. C'est plus que du dirigisme, c'est du n'importe quoi. Et autant je pouvais aimer un producteur qui revenait avec des rushs de 10 heures et disait, bah, vraiment, je voudrais bien là en 3 heures. Et qu'éventuellement le directeur, le responsable éditorial dise « Ah non, on n'en garde que deux », plutôt que de se dire « Faut que je fasse mes 4 heures, faut que je fasse mes 4 heures, faut que je fasse mes 4 heures ». Donc c'est un peu le péril. Il y a quand même une jolie case aussi de coordonnée par Sonia Kroll-Naun, les pieds sur terre. Donc voilà, ça fait déjà deux moments assez forts. Laurentin, le mardi, avec un documentaire. Bon, il reste des choses, mais c'est toujours en breton, peanuts. Voilà, donc je pense que le documentaire... a beaucoup sa place, bien sûr, sur Arte Radio. Il va l'avoir sur d'autres supports numériques. Heureusement, j'ai oublié Création On Air. Voilà, le mardi et le mercredi, coordonné par Irène Domenenko. Oui, il reste que des petites cases sympas. Pourquoi à 11h? Pourquoi pas à 21h? À 21h, on a de la parlotte autour d'une table. Zéro, voilà.
Vous parlez justement souvent des îlots qui vous permettent d'échapper un petit peu à la grisaille ambiante. Est-ce que vous accepteriez de nous faire part de quelques-uns de ces lieux d'évasion et où sont-ils encore aujourd'hui, alors peut-être en radio, à Radio France ou alors hors de Radio France, hors de la maison, puisqu'elle commence peut-être à craquer un peu de partout?
Alors je suis un peu une tête de mule. Bien sûr que j'écoute d'autres choses. Si je suis sollicité, là j'ai chroniqué Faune Radio, qui a fait des séries, présenté des sonorisateurs, des documentaristes et tout ça. J'ai trouvé ça très très sympa. Grenouille, si Grenouille m'interpelle pour me dire j'y vais, mais il me faut une interpellation. Je ne me dis pas, en plein désespoir de manque de radio, tiens, si j'allais sur Radio Meux, très sympa, Radio Marais, ici à Paris, qui fait des trucs très sympas. Non, j'y vais pas. Autrement aussi, j'écoute de la musique, hein, pour le plaisir, parce que j'écoute aussi beaucoup de musique. Donc, je n'ai pas ce réflexe-là. Par contre, je garde toujours dans un petit coin de mémoire Arte Radio. Là, c'est vraiment la grande classe pour moi. Pas tout, mais je peux trouver 3-4 pastilles par semaine quand même. Mais moi, je ne suis pas dans le rythme du... Enfin, normalement, je ne suis pas dans la morcellisation. On dit ça? Ça se dit, ça? Dans le morcelé. Ça me trouble, ça. Moi, j'aimais bien... C'est pas une question de ronron, c'est une question d'être en phase. Et je crois que cette année, j'ai découvert que, en fait, même encore maintenant, je suis dans la radio. La radio étant moi, je suis dans la radio. C'est-à-dire que, bien sûr, ça fait très nombreuses années que je circule dans Radio France. Et je viens y rencontrer des gens... Je ne suis pas l'enfant d'autrefois qui est admiratif de ce grand bâtiment et tout. En même temps, je travaille, hein, mais je sens, voilà, c'est un peu aussi ma maison, on pourrait dire, parce que c'est là que je trouve mon inspiration, puis que j'écoute mieux les gens. Alors que les autres radios dont on parle, ben, je connais Arte Radio, mais... Grenouille, je n'ai pas été à Marseille, voilà, Canu, je n'ai pas été à Lyon, et en fait, c'est un peu une question de je ne sais pas comment on dit, comme le snack, quoi. On vraiment picorer, et moi, je n'ai pas trop envie de picorer. Je picore beaucoup pour la musique. Par exemple, Philippe Manœuvre vient de créer sa radio rock, Perfecto Radio. Je ne l'ai pas encore écouté. Mais c'est assez tentant d'aller écouter, alors que du rock, voilà. Mais c'est une démarche, quoi. Il faut cliquer sur Internet, il faut fermer une autre fenêtre. Non, c'est pas une question que de confort, hein. C'est pas non plus une question de facilité, parce qu'avec mon smartphone, j'écoute, bah, j'ai Philippe, France Musique, Terre, et voilà. Puis j'ai besoin de temps long, j'ai besoin de sentir une complicité. Voilà. Même si on ne connaît pas le nom des animatrices de FIP, on s'habitue à une voix qu'on peut reconnaître, qu'elle soit à Paris, à Bordeaux, à Nantes ou à Strasbourg. Voilà. Et c'est valable aussi pour les chaînes publiques, de fait. Ça serait sûrement valable pour Grenouille et d'autres, ou Meux, ou Marais, ou Radio Fond de France, la web radio du fin fond de la France, tout là-bas, dans les Alpes perdues. Salut les copains. Voilà, je ne suis pas un picoreur.
Pour revenir un petit peu à votre blog, on peut notamment y lire une série de billets un petit peu hommage à des hommes et des femmes de radio, comme une sorte de panthéon personnel ou de bibliothèque de radio plutôt idéale. Et ça concerne non seulement des journalistes, mais aussi surtout des ingénieurs du son, des producteurs comme Yann Parantouen. Et aussi, ce qui est très important, dans ces souvenirs radiophoniques, vous incluez toujours des archives qu'on peut aller après de notre côté écouter et apprécier. Est-ce que vous voyez comme une sorte de conservateur de ces mémoires que vous mettrez un petit peu en valeur ou simplement voilà, que vous aimeriez transmettre?
J'aime beaucoup conservateur. C'est un beau titre, je suis conservateur à la radio. Conservateur, oui, dans le sens où si on va sur le moteur de recherche de l'INA et dans la partie radio, on va trouver des choses formidables, mais pourquoi, comment? Alors pour des gens de plus de 40 ans, ils vont pouvoir mettre des noms. Bien sûr, pour des gens de 30 ans aussi, mais comment aller voir le vieux et pourquoi aller voir le vieux. Et donc là, j'essaye de faire œuvre, de dire, écoutez donc ça. Il m'est arrivé de parler à une productrice de Radio France. Par charité, je ne citerai pas la chaîne. Et je lui ai dit, mais vous savez, vous avez un grand devancier qui s'appelle Gérard Cyr, qui raconte des histoires. Donc vous n'êtes pas venu au monde avec votre jolie voix. Non, 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 non. Il y avait des gens avant vous qui le faisaient. Quand on écoute Gérard Cyr, à l'INA avec une vidéo, bah oui, c'est pas pareil que de l'écouter à la radio, bien sûr. Voilà, alors tous ces gens, vous êtes très bien, tu as très bien dit le Panthéon, c'est parfait. Je pense qu'il faut les mettre en valeur et j'ai eu la chance, grâce au festival Longueur d'onde, salut les copains, de Brest, de pouvoir faire venir, on a commencé une série qui s'appelle Dimanche dans un fauteuil. Il y a 2 ans, Pierre Vigne, ancien directeur de France Inter, entre 73 et 81, Claude Villers, l'immense animateur de radio, Patrice Blanc-Francard aussi, on a réuni les trois, et on a parlé de ce que Claude Villers a appelé l'âge de pierre, Pierre Vigne, l'âge de pierre ou l'âge d'or de France Inter, les années 70. Cette année, on a évoqué Chris avec Chantal Pelletier, qui était sa meilleure amie, et qui est aujourd'hui... Chantal Pelletier est une femme de théâtre et aussi d'écriture. Je ne dis pas ce qu'il y aura l'année prochaine, mais voilà, ça ne sera pas dans un fauteuil, mais ça sera, j'espère que ça sera bien. Et donc, pour moi, c'est l'occasion de... Ce n'est qu'un début. J'ai fait des interviews de Lenoir, de François Jouffard, enfin voilà, j'ai fait pas mal d'interviews. C'est pas valorisation du passé à tout prix ou radio nostalgie, c'est vraiment montrer qu'il y a des gens qui ont marqué, comme il y en a qui marquent aujourd'hui, hein, Lebrun, Laurentin, là je parle de deux personnes d'histoire, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres, avec Avanzoni, Sonia De Villers, voilà, pour France Inter. Oui, ça c'est vraiment une œuvre que j'ai envie de faire, et de conservateur.
Vous parlez notamment souvent d'un homme qui est disparu récemment, Pierre Bouteiller, qui est sans doute assez peu connu, justement pour ma génération, en dehors peut-être d'un cercle de passionnés. Qu'est-ce qui lui vaut cette place à part, on lui accorde aujourd'hui quand on en parle encore toujours?
Alors je ne sais pas quand est-ce que passera l'émission sur Transistor, mais l'émission sera encore disponible sur France Musique, puisque France Musique, dimanche, la nuit de dimanche à lundi, a fait une nuit Bouteiller. Alors Bouteiller, c'est assez rigolo, parce que c'est un journaliste d'abord, c'est clair, et il fait un test à la fois de voix et de présence journalistique pour entrer à Europe 1. Et il ex-aequo avec Philippe Labraud, qui fera quand même plutôt sa carrière à RTL. Et donc déjà, on entend la voix donc du temps de Bouteiller, qui n'est pas si vieux que ça, hein, 65-66. Oui, bien sûr que ça fait 50 ans, mais la voix compte beaucoup. Aujourd'hui, n'importe qui, un homme ou une femme, on la rencontre dans la rue, la directeur des programmes, directeur de chaîne dit « Vous êtes sympa, vous avez une belle gueule, ou, vous parlez bien », et donc, bon, vous embouchez à la radio, sans aucun test de voix. La voix ne contenait plus l'élément fondamental pour le recrutement. Et alors Bouteiller, quelques anecdotes avec Europe 1, mais quand il est viré ou quand il décide d'un commun accord de partir de la chaîne, Roland Dordain, patron d'Inter, l'attrape dans le quart d'heure. Hein, et lui fait faire ce qu'il faisait à Europe 1, le magazine. Et alors là, vraiment, Bouteiller a installé quelque chose de tout à fait particulier sur France Inter, chaîne nationale et généraliste. Bouteiller a parlé de culture le matin à 9h, de cinéma, de théâtre, de concerts, d'expos de peinture, de gastronomie, mais avec un ton et tout exceptionnel, quoi. C'était vraiment... C'est aussi forcément une icône, hein. Il n'a sans doute pas fait que des bonnes choses en radio, mais il en a fait très très bonnes sur Inter, entre autres avec ses émissions. Il avait une tenue, une présence, une culture, bien évidemment, une culture énorme. Il a marqué les esprits, passionné de musique et de jazz, bon, il fait beaucoup de choses, quoi. C'est pas tout à fait le premier venu qui vous dit... Oh là là, j'ai lu le dernier livre d'Annie Ernaux. Non, voilà, on n'est pas dans... Bouteiller n'était pas ce qu'est la radio aujourd'hui, dans l'admiration perpétuelle et quotidienne de la pression à la fois mercantile et consumériste. Donc, Lui, Bouteiller, ben, il nous fait découvrir des trucs. Moi, j'ai un souvenir de janvier 78. Il envoie Manhattan Transfer, un groupe de jazz chanson et tout, avec Four Brothers. Ben, j'ai été acheter le disque tout de suite après. Quoi. Voilà, c'était tellement bienvenu, mais lui, c'était un grand monsieur. Il a fini sa carrière de radio à TSF Jazz à Paris. Une radio dans le même groupe que Nova. Là. Voilà, il incarnait quelque chose. Voilà, c'est l'incarnation qui était très forte. Aujourd'hui, l'incarnation en radio, c'est plus dur.
Une autre personne, une femme en l'occurrence, dans votre panthéon personnel, il s'agit de Chris, qui ressemble à l'un de vos premiers coups de cœur radiophoniques, et en particulier, en tout cas, l'un des plus prégnants. Vous l'avez évoqué, vous lui aviez rendu hommage au 14e festival Longueur d'onde aux côtés de Chantal Pelletier. Qui était Chris, Franche?
Quand on a 16 ans, quand on ouvre le poste de radio et qu'on entend la voix de Chris, et bien là on tombe parce que ça s'était jamais entendu à la radio. Il y avait des voix de femmes, bien sûr, hein, des très grandes femmes. J'ai cité Annick Beauchamp, France Inter, Méni Grégoire sur RTL. Oui, RTL, parce que j'ai failli dire Radio du Luxembourg, mais non, je pense que Méni a commencé quand ça s'appelait déjà RTL. Et mais Chris, la gouaille, la bonne humeur, la fraîcheur et une voix tombée. Oui, je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Et donc j'ai été charmé, on va commencer comme ça. Mais après, c'était pas que le fait qu'elle parle super bien, elle avait quelque chose dans la tête, elle avait surtout, c'est plus qu'un respect pour l'auditeur, elle a tout fait pour l'auditeur toute sa vie. Elle pouvait se permettre de dire auditeur de mon cœur. Et voilà, et donc on sentait ça tout le temps. Elle nous parlait, elle était avec nous. Il y a une autre grande voix de féminine que j'adore, qui est moins connue, qui s'appelle Claude Dominique, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais elle est aussi dans mon panthéon, pour d'autres raisons. Mais Chris, voilà, c'est la fraîcheur, la joie de vivre et tout, et puis avec malheureusement une apothéose tragique de cancer et un flot d'auditeurs qui ne peut avoir que des larmes et du chagrin, parce que cette présence quotidienne ou à l'époque hebdomadaire, bah, là, ça laisse un vide, on ne peut pas dire vraiment, on peut mettre, bien sûr, d'autres gens qui font d'autres choses, mais ça, c'est énorme pour la radio, on va dire, moderne.
On a aussi parlé du festival Longueur d'onde, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est?
Voilà, alors ça, c'est entre autres un fou furieux de radio qui s'appelle Laurent Le Gall, qui est historien, salut Laurent, qui un jour est parti voir Emmanuel Laurentin, qui faisait une émission à Plozévette, en Sud-Finistère, où il y avait des très grands historiens qui avaient travaillé, André Bruguière, Edgar Morin, je crois, et il m'en manque un, peu importe. Et il a parlé de sa passion de la radio et de créer un festival. Et Emmanuel, bien sûr, l'a encouragé à le faire. Et ils ont vraiment créé un festival qu'ils appellent de l'écoute aussi, parce que leur passion, la faire partager à d'autres. Je ne les ai pas rencontrés tout au début parce que j'avais une vie un peu trépidante. J'étais tout près de Brest, mais voilà. Et quand je les ai rencontrés, on a assez bien fonctionné puisqu'ils ont assez vite apprécié la folie du personnage que je suis. Et je pense pour l'instant, ils l'ont apprécié. Et je les en remercie. Coucou Anne-Claire. Anne-Claire est la coordinatrice du festival. Et donc tous les ans, avant c'était en décembre, maintenant c'est en fin janvier, début février, ils accueillent des producteurs, éventuellement des directeurs de chaînes, des émissions sont faites sur place, et le public a l'occasion de se confronter avec ses idoles et tout. Alors il y a eu une palanquée énorme de beaucoup de choses, de beaucoup de chaînes publiques, mais aussi des chaînes privées. Et, Jacques Pradel, RTL est venu, Fogiel est venu, et puis cette année il y a eu Radio Nova, donc voilà, ils sont ouverts aussi à autre chose, mais ils sont bien sûr assez radio public. Voilà, et donc c'est un festival très très sympa, convivial et tout. Brest est une petite ville, le lieu est unique au Quartz, et puis au Café Le Vauban pour certaines animations, et voilà, on est entre soi passionné de radio, et ça qui est magique.
Vous-même, en tant que conservateur et en tant que toujours voilà, écouteur au jour le jour, est-ce que vous ressentez un peu de nostalgie parfois en vous disant que c'était peut-être mieux avant? Ou alors est-ce qu'il y a vraiment des zones de création, toujours de potentiel que vous voyez et qui vous passionnent et que vous enthousiasment toujours?
Alors, je n'ai pas le droit de dire que c'était mieux avant parce que si je voulais dire, un de mes maîtres en radio qui s'appelle Patrice Blanc-Francard réfute ça absolument, mais il s'est fait un peu piéger quand on l'a invité, justement à longueur d'onde. Il a dit à un moment donné, il valorisait quelque chose. Alors Pierre Vigne, son ancien directeur, lui dit, alors c'était mieux avant. Patrice a répondu, c'était pas mieux avant, mais on était plus libre. Ah bon, bah alors moi personnellement, c'était mieux avant si on est plus libre. C'est le premier point. Nostalgie, c'est rigolo parce que cette année, on a fait une petite confrontation, une petite joute avec Aude Dassonville de Télérama. Bonjour Aude. Où on a parlé du blogueur et de la journaliste de l'excellent hebdomadaire Télérama. Et donc, à un moment donné, le mot nostalgie est revenu. J'ai pas de nostalgie. Je peux écouter quand je veux des choses plus anciennes. J'ai beaucoup de respect pour ce qui a été fait dans des très belles années où il y avait à la fois de l'argent, de la créativité et tout. Surtout pas trop de normes. Ce qui tue la radio, pour moi, c'est la norme des conducteurs. Centième de seconde, j'exagère un tout petit peu. Voilà, ça me fatigue. Et votre question, c'était de savoir si je trouvais encore mon compte. Eh ben oui, je trouve mon compte, bien sûr. Pascal Ariello, braqueur, mais Charlotte Bien-Aimée, qui avait fait quelque chose sur sa grand-mère, aussi sur Arte Radio. Plusieurs séries de... la série documentaire de France Culture. D'autres choses...
Easy Tempo.
Ah bah, Easy Tempo, de fait, Mishka Sayas sur Inter. Et oui, ça continue, mais voilà, c'est des petites pastilles qui flottent. Voilà, elles ne sont plus dans un tout. Elles sont dans la même maison, pour ce qui est de Radio France. Non, je continuerai à écouter la radio, mais je ne sais pas si je devrais le dire ici, parce que ça risque de ne pas m'être reproché. On va me dire, ben ça alors. J'ai voulu tenter, alors que je n'ai pas la télévision, de regarder Barthès quotidien sur TMC. J'ai été accro par le sérieux de l'affaire. Ces jeunes journalistes, ça, je trouve ça formidable. Martin Veil, Hugo, Valérie, et la dernière, là, qui s'en va, c'est 28 minutes. Son nom de famille, bon, peu importe. Et... je me suis dit, si on avait pu faire ça en radio, ce que faisait Villers en 73 avec Pas de panique, mais quand même l'image là-dessus prime tout, donc c'est sans doute difficile. Mais le producteur de Barthès étant lui-même producteur de cette émission quotidienne, c'est Laurent Bon, et Laurent Bon vient de France Inter. Je ne dis pas qu'il prend des ficelles du métier de radio, mais j'ai très envie de le rencontrer, parce que moi, il m'a bien accroché. Parce que je trouve que c'est bien fait, c'est tonique, c'est pas racoleur comme tellement de chaînes, on va dire, pour les jeunes, entre guillemets. Donc ça me va, il y a du sérieux, il y a de la fantaisie, c'est bien dosé, j'y trouve mon compte. Et pourtant, je suis pas du tout spectateur de télévision, mais voilà.
Et à force d'écouter, est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé d'avoir envie, à votre tour, de faire de la radio, de passer derrière un micro, de... voilà.
La grande question, alors tout le monde s'est moqué de moi... à longueur d'onde au mois de février, parce que dans ma joute avec Aude, bonjour Aude, j'ai à un moment donné, dans ma radio, et je voulais dire mon blog, lapsus, tout ça, alors ils ont été chercher un divan, le plus grand psychiatre de Brest, qui m'a analysé, il m'a dit oui. Alors d'abord j'ai fait un tout petit peu de radio autrefois, sur une minuscule radio locale qui s'appelait Radio Émeraude, mais rien comme petite émission sur le cinéma. Oui, j'ai assez envie. J'aimerais, pourquoi pas en faire. J'ai d'abord été très admiratif de ce que j'entendais, et je me suis commencé par me dire, je ne saurais jamais faire ça. Bon, il se trouve que j'étais dimanche soir sur France Musique, a priori les producteurs ne m'ont pas fait foutu dehors. J'étais satisfait de ce que j'ai dit, je crois que vous l'avez dit tout au début, et tu l'as dit tout au début, je sais raconter des histoires, donc voilà, je pense que... Mais j'ai pas fonction... Un jour, penser pouvoir travailler sur Radio France, j'en sais rien, mais pour l'instant, je ne fais pas de demande, en tous les cas. Web radio, pourquoi pas. Raconter des histoires, oui, raconter des histoires de radio, parce que vraiment, c'est un autre temps, mais les années 90, Jean-François Remonté, réalisateur à France Inter, avec Simone Depoux, réalisatrice à France Inter, ont créé l'émission Les années radio, et là... Remonté pendant 2 mois et 2 étés consécutifs, nous a envoyé des archives, merveilleux. Alors que la radio s'est très peu parlé d'elle-même, et c'est très peu s'auto-parler, quoi. S'auto-raconter, plutôt. Et s'auto-parler, de fait. Voilà, donc, oui, ça me titille, ça m'amuserait, mais j'en fais pas quelque chose d'existentiel. Et puis surtout, à Radio France, je suis un peu connu. Je pense qu'il y a des gens qui m'apprécient, mais il y a peut-être des responsables qui m'apprécient moins, parce que, comme je ne suis quelquefois pas très tendre, voilà.
Pour revenir justement sur les relations avec les gens que vous, dont vous parlez dans vos blogs, que vous critiquez parfois, et aussi tout simplement avec ceux qui vous lisent, vos auditeurs, lecteurs, comme vous les appelez, comment est-ce que ça se passe un petit peu? Est-ce que vous avez des réponses, des retours, des reparties? Il y a des discussions qui peuvent s'engager justement à travers ce média du billet?
Eh bien, souvent, j'en ai rencontré plusieurs. Certains sont devenus des amis, c'était des collègues, comme Le Transistor à Toulouse, Hervé Marchais, vraiment un passionné de radio qui a une culture formidable, pas tout à fait la même que la mienne, il est très très pointu sur la bande FM et tout, un garçon charmant, mais souvent, il y a Nanou qui m'écrit toujours de La Rochelle, mais on ne se connaît pas. J'ai essayé une fois de rencontrer les gens parce que j'aime bien sentir, et le job que j'ai fait au début à longueur d'onde, c'était de donner la parole aux auditeurs. J'avais appelé ça la République des auditeurs. Et donc, j'ai connu des auditeurs par mon blog, par le festival et tout. Alors j'ai pas mal de commentaires, je crois que j'ai plus de 2000 commentaires. Mais enfin, c'est pas énorme. Mais de toute façon, je voudrais pas qu'il y en ait trop non plus parce que je vais pas passer mon temps à écrire ce que j'ai déjà écrit. Voilà. Non, mais par contre, ce qui est très très marrant, j'ai fait un article sur le Nagra. Et bien, il y a un auditeur, lecteur, qui a posté un commentaire sur Madeleine Constant. Je crois que c'est l'article de blog qui est le plus commenté. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que le départ d'Alain Weinstein, aussi de culture, a mis beaucoup de monde sur le blog. Mais là, Madeleine Constant, c'est de la folie. Et alors, un de ses lecteurs vient de m'envoyer des bandes magnétiques de Madeleine Constant, que j'ai remise hier à l'INA, pour voir si ça les intéresse et tout. Je sais pas s'ils ont des archives de Madeleine Constant, voilà, qui était une animatrice, comme on disait à l'époque, on ne disait pas producteur, d'émissions du soir, de fin de semaine sur Inter. Moi, que je ne connaissais absolument pas.
Quel avenir, justement, pour ce blog Radio Fanche? Qu'est-ce qui nous attend, nous, lecteurs de votre blog?
Au bout de la première année, qui était une vraie fausse première année, en 2011, j'avais très envie de continuer, bien sûr. Alors là, au mois de juin 2012, il n'y avait pas de problème, je continuais. À partir de la rentrée 2013, j'ai commencé à me dire, est-ce que je continue et tout? Et tous les ans, j'avais une question existentielle. Cette année, j'ai tranché, j'arrête. J'arrête d'écouter le flux. Ah si, j'écouterai pour moi, mais j'arrête d'écouter le flux en pensant chroniquer. Et j'écoute n'importe quoi et tout, sans prendre de notes, sans rien du tout, comme un auditeur lambda. Et puis je fais, pour vous, auditeurs, un grand feuilleton qui va commencer le 4 septembre, qui se terminera aux alentours du 30 juin 2018, sur un événement particulier que je vais traiter tous les lundis de façon historique, géographique, et citoyenne, on va dire, avec bien sûr des archives de l'INA, et puis le vendredi, plus sur une partie culturelle, ces années-là et tout, tel livre, tel film, tel groupe de musique, tel disque. Et donc c'est un travail plutôt de... travail qui est... pas intemporel, mais bien sûr je vais parler de certaines années et tout, mais je ne suis pas contraint de me dire que c'était hier à la radio. Alors bien sûr, j'ai passé une partie de mon été à écrire mes billets du mois de septembre. Et puis en septembre, c'est octobre, etc. etc. Sur un sujet qui va... Non, je ne serai pas le seul à parler, sans doute. Mais en tous les cas, peut-être que je suis le seul à commencer à en parler dès le mois de septembre. Voilà, donc ça me plaît beaucoup parce que j'ai en partie dans la formation des études d'histoire. Alors je préviendrai mes lecteurs, je ne suis absolument pas historien. Je me méfierai bien sûr avec des... mes idoles que sont Lebrun et Laurentin, je ne peux pas dire n'importe quoi, j'essaierai de ne pas dire n'importe quoi, et de raconter plutôt la vie d'un Français dans ces années-là, avec bien sûr quelques références historiques, puisque mon objectif est de faire des références historiques. Mais je ne serai plus, quelquefois le dimanche soir, le pire dans ma petite carrière de blogueur, je me rappelle qu'un dimanche, tout allait bien, d'un coup je me dis, mais j'ai pas fait mon billet pour demain. Ça, c'est terrible. Parce que j'étais dans une mécanique et là, j'avais enfin soufflé. Bon, j'avais bien sûr des choses dans ma tête en réserve. J'ai beaucoup de choses en réserve dans ma tête, mais voilà, là, c'était déjà un signe qu'il fallait commencer à faire attention. Donc, ça ne m'est plus jamais arrivé. Et là, je suis très content, je vais faire un peu de billets cet été sur des choses assez fortes qui vont se passer à la radio. Et puis après, voilà, je pense, on verra au bout d'un an si ça me titille de revenir au feu ou pas. Mais normalement, il va se passer des choses importantes dans l'audiovisuel public. Quand M. le nouveau président de la République aura fini de passer en revue par ordonnance les effets sur la loi travail, je pense qu'il pourra, lui ou d'autres, s'atteler à l'audiovisuel public.
Vos lecteurs, auditeurs pourront aussi vous retrouver évidemment au prochain festival Longueur d'onde. Vous avez l'air de comploter, de préparer quelque chose d'assez beau. On peut aussi vous retrouver sur papier, c'est-à-dire dans la revue de l'écoute Saint-Aune. Étienne Noiseau vous a invité à participer au numéro.
Alors Étienne Noiseau, que je connais depuis longtemps, depuis que je me suis mis d'ailleurs à créer ce blog, on avait déjà échangé sur la revue, moi en tant que graphiste, j'avais donné des avis et tout, plus que sur le contenu. Là, il m'a proposé, à partir de ce que j'écrivais sur mon blog, de reprendre quelques citations de Par Antoine, de Chris et d'autres, et de les illustrer, ce que j'ai fait à ma façon. De fait, j'en ai profité en faisant un billet de parler des autres. Je n'avais pas en même temps être redondant. Je pense que Étienne Noiseau, avec Saint-Aune, sur une formidable niche qu'il appelle la radiophonique, il n'y a pas que de la radiophonique, il y a aussi de la radio, même peut-être quelquefois sans être artistique, touche des tas de gens qui sont passionnés par ça. Et pour ce qui concerne Longueur d'onde, c'est pas du complotage, parce que l'idée, je l'ai eue en novembre 2016. J'ai appelé aussitôt Laurent Le Gall et il m'a dit « bingo ». On l'a affiné bien sûr depuis, et puis j'ai déjà eu des rencontres à Paris, et j'en aurai une demain décisive pour préparer mon travail, parce que je fais comme dans la radio. Hein. Je prépare longtemps à l'avance, je vais aussi faire appel à des archives, donc tout ça demande du temps. C'est difficile, je comprends bien, je voudrais que j'en dise plus, mais je peux pas, parce que j'adore les surprises. J'aime beaucoup faire des surprises, et je ne veux rien dévoiler de ce fait. Mais ça va être, j'espère, assez fort, ça mettra en valeur comme ce que je fais plutôt à Longueur d'onde, c'est-à-dire le Panthéon. Voilà, ça, je peux le dire. Et ça ne sera pas ni Europe 1, ni RTL.
Très bien. Donc, pour nos auditeurs, on peut vous retrouver évidemment sur Internet, avec une seule adresse, radiofanche.blogspot.fr. On peut également vous retrouver sur Twitter, Radiofanche, dans les carnets de l'écoute, Saint-Aune, mais aussi à Longueur d'onde, on y sera, j'espère. Merci à vous.
Merci beaucoup, Céline.